Merci d'écouter France Inter, 7h30. Le journal, bonjour Bernadette Chamonaz.
Bonjour, médicaments, la pénurie qui fait peur. Des centaines sont régulièrement en rupture de stock. La ministre présente ce matin un plan d'action. Iran, nouveau coup de canif dans l'accord de Vienne. Téhéran va enrichir son uranium à un taux prohibé. Nous verrons comment le pays tente de desserrer l'étau des sanctions. L'Allemagne sous le choc, Deutsche Bank qui va supprimer un cinquième de ses effectifs. Dans ce journal encore municipal, les Verts à la recherche d'un bulletin commun. Aide au logement, casse-tête pour le gouvernement. Comment les BC sont fâchés les Français. Et puis en sport, l'homme qui monte, ça tombe bien, il y a une arrivée en côte dans la troisième étape du tour, portrait de Julien Alaphilippe.
À 7h50, nous recevons le comédien Jacques Weber, il joue architecture au Festival d'Avignon.
France Inter.
Un Français sur quatre a donc des difficultés pour trouver le médicament dont il a besoin.
La pénurie de médicaments, un problème de santé publique qui prend des proportions inquiétantes. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui présente ce matin son plan d'action, donne ce chiffre. En 10 ans, le nombre de pénuries signalées a été multiplié par 20. Et de la bobologie jusqu'aux anticancéreux, toutes les molécules sont concernées, comme s'en est rendu compte Véronique Julia dans cette pharmacie parisienne.
Dans cette pharmacie parisienne, comme dans beaucoup d'autres en ce moment, impossible de venir les mains dans les poches, demander un renouvellement de corticoïdes sur ordonnance. La pharmacienne Cécile n'en a pas, ou très peu.
Il me reste quelques boîtes que je garde pour les patients qui ont un traitement au long cours, qui ont des pathologies pulmonaires graves. Je suis limitée à 3 boîtes par jour, par mon grossiste. Et je peux absolument honorer quasiment aucune ordonnance.
3 mois que ça dure. Et si ça va un peu mieux pour les corticoïdes, ça va moins bien pour d'autres molécules. En fait, ça tourne.
J'ai à peu près tous les jours une 50aine de produits qui sont en rupture. Des produits contre la maladie de Parkinson. On a des anticancéreux qui sont manquants, des antiépileptiques et beaucoup de produits également hormonaux. C'est un problème qui est récurrent depuis au moins 3-4 ans. Mais là, on sent que depuis 6 mois, 1 an, c'est vraiment constant.
Un problème qui génère forcément des angoisses pour les patients.
Aujourd'hui, j'ai à peu près entre 10 et 15 coups de fil par jour de personnes qui m'appellent pour savoir en effet si je suis détenteur de leurs produits. Donc il y a des gens qui vont en province ou qui missionnent de la famille en province pour essayer de trouver. J'ai même des gens qui achètent maintenant leurs médicaments à l'étranger.
Il y a 10 ans, une 50aine de médicaments seulement avaient été signalés en rupture ou en tension sur l'année entière, à des degrés plus ou moins préoccupants. Aujourd'hui, ces signalements se comptent par centaines. On pourrait même dépasser le millier cette année.
D'où le vaste plan que la ministre va proposer ce matin, meilleure coordination entre les pharmacies, trouver des médicaments de substitution, agir aussi au niveau européen, dont l'une des causes de ces ruptures est que les pays qui payent le plus sont livrés en priorité. Un exemple, autour de 2 euros les corticoïdes en France en moyenne, alors que c'est le double en Italie. Pour l'homéopathie, la question du déremboursement total ou partiel devrait être tranchée cette semaine par le président de la République. La ministre de la Santé voudrait suivre l'avis de la Haute Autorité de Santé, déremboursement total, mais face aux granules, un argument massue l'emploi auquel Emmanuel Macron pourrait être sensible.
Les aides au logement, là aussi un choix entre décision budgétaire et décision politique.
Encore un sujet sensible en effet. D'un côté, Bercy qui souhaite accélérer la réforme des aides au logement, 900 millions d'euros d'économies à la clé. De l'autre, un gouvernement qui sait les conséquences que cela aura pour 6 millions de personnes et donc d'électeurs qui touchent les APL. Pour l'instant, le nouveau système de calcul prévu pour la rentrée est repoussé. Claire Chaudière.
C'est une enveloppe de près d'1 milliard d'euros que Bercy voit s'éloigner. Même si le gouvernement le répète, il ne s'agit pas d'une mesure budgétaire. Pas de changement effectivement du barème des APL. L'idée, c'est de calculer ces aides sur les revenus actuels des bénéficiaires et non plus sur ceux d'il y a 2 ans. À première vue, pas de séisme donc en perspective, sauf que la situation économique étant meilleure aujourd'hui, de fortes baisses sont à prévoir pour plus d'1 million de locataires. Pour le moins compliqué de passer la réforme incognito en plein été, d'autant que les CAF ne seraient pas tout à fait prêtes. Le souvenir des 5 euros d'APL en moins à l'été 2017 a aussi laissé des traces. Face à l'impatience de Bercy, le ministère du Logement demande un report accepté. Matignon renvoie la réforme à janvier 2020. D'ici là, prévient un sénateur furieux, il faudra tout de même que l'exécutif sorte du rideau de fumée. Lorsqu'on prévoit de faire jusqu'à 1 milliard d'économies, on ne peut pas laisser croire aux Français que leur budget logement ne bougera pas.
Claire Chaudière, les politiques qui avant la pause estivale pense déjà municipale. C'est pourtant dans 9 mois. Audition demain des candidats En Marche pour Paris. Grand oral aussi au siège du Rassemblement National. Du côté des écologistes, l'heure des négociations aussi pour qu'il n'y ait qu'un seul bulletin. Yannick Jadot, Delphine Bateau, Antoine Wechter sont ensemble aujourd'hui en campagne dans le Val-de-Marne. Maxence Lambrec.
Rendez-vous est donné devant le vieil incinérateur d'Ivry. Les écolos veulent afficher leur unité autour de projets concrets et en l'occurrence, ils s'opposent à la construction d'un nouvel et gigantesque incinérateur aux portes de Paris. À 9 mois des municipales, les petits mouvements écolos, ceux par exemple de Corinne Lepage, Antoine Wechter ou Jean-Marc Governatori, se marient avec Europe Écologie Les Verts. Oubliez les européennes où chacun défendait son courant. Delphine Bateau et le philosophe Dominique Bourg portaient alors la liste Urgence Écologie.
On va du vert pastel à un vert beaucoup plus foncé. Et personne n'avait en quelque sorte le monopole. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est le rassemblement du pastel au foncé. Pas simple, mais c'est une nécessité aujourd'hui.
Liste commune donc dès le premier tour des municipales. Les Verts voulaient aussi emmener avec eux le parti animaliste, mais ils préfèrent rester dans leur couloir. Quant aux alliances avec des partis de gauche, ce sera au second tour, au cas par cas, prévient Yannick Jadot.
Quand les jeunes manifestent pour le climat, ils disent pas « refaites-nous la gauche plurielle de 97, on n'était même pas nés ». Ils disent pas « refaites le programme commun des années 70, c'était nos parents ». Ils disent « offrez-nous un avenir ».
Dans le viseur des écolos, Paris, Rennes, Nantes et Toulouse, en espérant bien sûr garder Grenoble.
En Grèce, l'austérité menée par Alexis Tsipras lui aura coûté le pouvoir aux législatives, revers cinglant pour le Premier ministre et son parti Syriza qui perdent près de la moitié de leurs sièges. Et c'est la promesse de baisser les impôts qui permet au conservateur Mitsotakis de remporter la majorité absolue au Parlement. Le choc en Allemagne, l'une des plus vieilles banques européennes, la Deutsche Bank, annonce un plan massif de suppression d'emplois, 1/5 de ses effectifs. La banque, symbole de l'économie florissante allemande, doit se restructurer. Est-ce un signe pour les autres banques européennes ? Analyse de l'économiste Éric Dor, joint par Delphine Simon.
Les banques sont plus solides. Maintenant, elles souffrent par rapport à leur concurrente américaine d'une série de facteurs structurels. Il y a la croissance plus faible en zone euro qu'aux États-Unis, donc qui fait que le volume d'affaires est plus faible, que ce soit dans la banque de détail ou la banque d'investissement. Deuxième facteur important, c'est la politique monétaire. Les Américains avaient commencé à relever les taux beaucoup plus vite que les Européens, qui en sont encore à des taux zéro ou négatifs. Rien que la facture des taux négatifs, c'est 7,5 milliards d'euros supportés pour plus de la moitié par les banques allemandes et françaises. Cela a beaucoup pesé sur les revenus nets d'intérêt des banques. Troisième facteur, le retard que les banques européennes ont pris dans la digitalisation de leurs activités. Entre autres, ça implique des très gros investissements informatiques. Et quatrième facteur, le coût de la régulation, particulièrement élevé dans la zone euro, donc qui implique des charges supplémentaires en matière de fonds propres pour couvrir les risques qu'elles prennent et les crédits qu'elles accordent aux clients. Le message des banques, c'est de dire attention de ne pas finalement être contre-productif par rapport à vos objectifs.
L'économiste Éric Dor, joint par Delphine Simon.
France Inter, 7h38. L'Iran donne un nouveau coup de canif dans l'accord de Vienne.
Depuis hier, Téhéran a remonté le taux de son enrichissement d'uranium au-delà de ce qui était fixé par cet accord sur le programme nucléaire iranien. Un texte longuement négocié par la communauté internationale avant d'être dénoncé par les États-Unis qui ont relancé les sanctions. Sanctions, Christian Chéneau, que le pays cherche par tous les moyens à soulever.
Étranglé économiquement, l'Iran met en place des filières de contournement de l'embargo américain. Dubaï, qui était la principale porte d'entrée et de sortie des flux commerciaux avec Téhéran, se ferme. Les compagnies iraniennes ont donc commencé à déménager et à s'enregistrer dans le sultanat d'Oman voisin. L'Iran se tourne aussi vers les rares pays amis comme la Chine, explique Mehdi Miremadi, président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-iranienne.
Il y a un système bancaire qui marche avec les Chinois, mais ce n'est pas pour tous les produits. C'est pour les médicaments, ça marche. Pour ce qui est pas sanctionné, ça marche, mais pas pour le reste.
La Chine, qui a fait savoir qu'elle allait continuer à importer du pétrole iranien pour exporter son brut, l'Iran pratique aussi la vente en haute mer, ajoute l'avocat d'affaires franco-iranien Ardavan Amiraslami.
Ils ont acheté d'ailleurs quelques méga-tankers pétroliers qu'ils remplissent et qu'ils essayent de vendre en pleine mer à des acheteurs potentiels avec des discounts très importants. Mais dans la pratique, on ne peut pas mener un pays de 80 millions d'habitants avec des techniques de ce genre.
Pour tenir subir le choc économique. La République islamique a besoin de vendre chaque jour 1 million de barils de pétrole, nous a confié un diplomate iranien.
Christian Chesneau, le bac aujourd'hui, d'ici une demi-heure, les correcteurs grévistes doivent rendre enfin les dernières copies qu'ils retenaient. Les candidats devraient donc avoir dans la journée, si tout va bien, leur note définitive avant rattrapage. Des oraux qui commencent aussi à 8h pour quelques 103 000 candidats, mais des parents envisagent tout de même de porter des recours en justice pour rupture d'égalité. En passant sport, il pourrait être l'homme du jour sur le Tour de France avec cette 3e étape, une arrivée à Épernay, une arrivée en côte comme les aime Julien Alaphilippe, la coqueluche du public français Xavier Monferrand.
La dernière fois qu'un Français a enfilé le maillot jaune sur le Tour, Julien Alaphilippe, lui, découvrait tout juste le haut niveau. C'était il y a 5 ans. Depuis, c'est lui, la figure du vélo tricolore. Meilleur grimpeur du Tour l'an dernier, Julien Alaphilippe se verrait bien, cette fois, reprendre le flambeau.
Le maillot jaune, je pense que ça fait rêver tous les coureurs qui participent au Tour de France. Là, d'avoir l'opportunité de pouvoir s'en approcher, il faut la saisir. S'il y a le maillot jaune qu'on peut porter en début de Tour, on va pas s'en priver en pensant au maillot à poids que je suis pas sûr de porter ou d'avoir. Après, on verra. C'est les jambes qui décideront. En tout cas, je suis motivé. Pour l'instant, ça va.
Et ça va même très bien. Numéro 1 mondial, Julien Alaphilippe a souvent levé les bras cette saison, notamment sur les Strade Bianche, la Flèche Wallonne et surtout à l'arrivée de Milan-San Remo. Des victoires de prestige qui font de lui un coureur à part pour son manager Patrick Lefebvre.
Julien, il est Julien, on sait que c'est un type spécial. Donc il n'a pas par hasard 12 victoires cette année, il n'a pas par hasard... Il n'est pas par hasard numéro 1 au cyclisme international.
Et Julien Alaphilippe a depuis longtemps coché l'étape d'aujourd'hui sur sa liste de courses et cette arrivée en montée à Épernay, un terrain idéal pour un puncheur comme lui qui veut voir la vie en jaune. Binche, Xavier Monferrand, France Inter.
Départ donc de la 3e étape de Binche, comme vient de le dire Xavier très justement, en Belgique. 215 km jusqu'à Épernay, où l'on verra peut-être donc Julien Alaphilippe.
Avec peut-être du champagne s'il remporte la victoire. C'était Bernadette Chamonaz.